الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله، نتابع قراءة كتاب شرح منهج السالكين الإمام السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله، وتوقفنا عند كتاب الصيام الحمد لله عز وجل. فمن يذكر لنا تعريف الصيام الذي ذكره المؤلف أو الشارح؟ Qui nous rappelle la définition du jeûne qu'a donné l'auteur, plutôt le cheikh Al-Qusayr, hafidhahullah. C'est quoi le siyam? Ma huwa siyam?
C'est une adoration en se privant de poisson, de nourriture, de rapport charnel, de Fajr jusqu'à le Maghreb.
Très bien. Mais est-ce que il n'y a que ça comme chose qui romprait le jeûne, qui peut rompre le jeûne? Est-ce qu'il n'y a que la boisson, la nourriture ou le rapport charnel, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses qui pourraient le rompre? Non, c'est pour ça que bien que tu rajoutes, mais quand tu dis en se privant de nourriture, de boisson, de rapport charnel et de tout ce qui pourrait annuler le jeûne. Comment on les appelle ces choses-là? Les choses qui annulent le jeûne, on les appelle elles, en arabe, elles mufattirat. Tu vois, quand tu connais le terme en arabe, ça te permet de résumer comme ça, de dire tout ce qui rompt le jeûne, machin et tout en français. Tu dis mufattirat. Mufattirat, tu sais que c'est tout ce qui annule le jeûne. D'accord? Tu veux rajouter quoi?
Pour le puber et le capable.
Non, ça c'est dans les conditions. Là, dans la définition générale, tu n'as pas besoin d'évoquer cela. D'accord? Taïeb. Non. Donc ça, c'est la définition la plus, on va dire, correcte pour définir le jeûne de manière générale. Pas seulement le jeûne de Ramadan, mais le jeûne, que ce soit le jeûne de Ramadan ou le jeûne de Ramadan. Taïeb. En quelle année il a été rendu obligatoire?
Deuxième année.
Hein?
Deuxième année
de la deuxième année, c'est l'année. Avant, il était obligatoire aussi, mais les gens avaient le choix entre jeûner ou nourrir un porc à la place. D'accord? Non. Alhamdulillah. ويصام برؤية عدل لهلاله. نعم. Donc on a vu que le témoignage d'une seule personne fiable suffisait pour le hilal, le croissant lunaire du mois de Ramadan. Ça suffisait. D'accord? La preuve, le hadith d'Ibn Omar qui a dit: Tara an-nas al-hilala fa akhbartu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. أني رأيته فصامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كي أتي ابن عمر donc il a dit les gens scrutaient le ciel pour chercher le hilal et j'ai informé donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم que je l'avais vu, d'accord, que je l'avais déjà vu, et donc il a jeûné le lendemain يعني, et il a ordonné aux gens de le jeûner. Donc ici, on voit que le témoignage de Ibn Omar a suffi. D'accord? Lakin, قال الشيخ, لا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم. بخلاف بقية الشهور. يقول ولا يقبل في إثبات رؤية الهلال لبقية الشهور غير رمضان إلا بشهادة عدلين. عدلين اثنين. لحديث حسين ابن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أخرجه النسائي. وأيضا عن حسين بن الحارث أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما. الحديث أخرجه أبو داود ودار قطني، وقال دار قطني إسناد متصل صحيح. طيب، puis dit l'auteur, en revanche, concernant les autres mois de l'année, donc en dehors de Ramadan, pour les 11 autres mois, eh bien, on ne pourra accepter le témoignage concernant la vision du croissant lunaire que de minimum deux témoins. Deux témoins fiables. D'accord? Donc Ramadan, un témoin suffit. Alors que les autres mois, il faut deux témoins. Minimum. D'ailleurs. Donc il dit, hormis Ramadan, donc on ne peut accepter le témoignage que de deux témoins fiables, adl, d'accord, au niveau de, donc fiable, quand on dit fiable, c'est celui qui est éloigné des grands péchés, qui est connu pour ne pas commettre des grands péchés, et également pour ne pas commettre constamment des péchés mineurs aussi. Il est connu pour sa piété, pour sa loyauté, pour sa véracité. Donc on a le hadith ici de Hussein ibn Harith al-Jadali qui dit que Abd al-Rahman ibn Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc c'est qui ici Abd al-Rahman ibn Zayd ibn al-Khattab par rapport à Omar? C'est son neveu. D'accord? Parce que Zayd, donc le père d'Abd al-Rahman, c'est le frère de Omar. D'accord, c'est le frère de Omar. Donc Omar, c'est Ammu, c'est son oncle paternel. D'accord, donc là, c'est le neveu de Omar qui s'appelle Abd al-Rahman ibn Zayd ibn Khattab. Kana min sighar sahaba. D'accord, il fait partie des sahaba, mais yani, lorsque le prophète était vivant, il était encore petit. D'accord, jeune. Il dit ici, donc Abd al-Rahman, khatab al-Nas. Donc il faisait un discours. D'accord, devant les gens, le jour du doute, Yom Shak. D'accord? Yom Shak. Donc Yom Shak, c'est le 30e jour de Sha'ban. D'accord? On a Sha'ban, le 29, l'après-midi du 29, on regarde. Est-ce qu'on voit les Hilal ou pas? Si on ne le voit pas à cause des nuages, par exemple, il y a des nuages, je ne peux pas le voir. Du coup, le lendemain, on rajoute 30. D'accord? Mais le 30, en vérité, on l'appelle Yom Shak. Parce qu'il se peut qu'elle était là, les Hilal, mais qu'on ne l'a pas vue à cause des nuages. C'est pour ça qu'on l'appelle le jour du doute. D'ailleurs, mais malgré ce doute, on n'a pas le droit de le jeûner. D'accord? Ça ne veut pas dire que comme tu doutes, eh bien, tu vas le jeûner, on ne sait jamais, par précaution. Non, tu n'as pas le droit. Hada haram. Hada haram. Donc tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu. Tu rajoutes 30, khalas. Tu jeûneras le surlendemain. D'ailleurs, donc il faisait un discours, ce jour-là, justement, et il a dit... Comme quoi, il était assis un jour auprès des messagers, auprès des compagnons, pardon, du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, je les ai interrogés, je les ai questionnés, et ils m'ont dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, jeûnez à sa vision, rompez le jeûne à sa vision, wansukulaha, C'est-à-dire, adonnez-vous à cette adoration-là par rapport à cette vision. Adonnez-vous au jeûne, l'adoration du jeûne, ici. Et si la vision du croissant vous est impossible, nuages, etc., etc., complétez le mois de Sha'ban à 30. Puis il dit, et si deux témoins ont témoigné de Hilal, Fasoumou ou Aftir, jeûnez et rompez. Jeûnez et rompez. Donc on a vu que pour le jeûne, un témoin suffisait. D'accord? Parce qu'on pourrait comprendre, si on prend que ce hadith-là isolé, on peut comprendre qu'il faut deux témoins aussi pour le Ramadan. Parce qu'il dit, Fa'in shahida. Mais on a d'autres hadiths, notamment celui d'Ibn Omar, qui vient détailler le général. D'accord? Et en plus, il dit, wa aftiru à la fin. Donc on comprend que pour la rupture, par contre, c'est-à-dire le mois de Shawwal, ben, il faudra deux témoins. Pour Shawwal, il faudra deux témoins. Contrairement à Ramadan. Vous comprenez? Et on a un hadith supplémentaire, celui de Hussein ibn al-Harith, qui a dit que al-Harith ibn Hatib, d'accord? Donc, al-Harith ibn Hatib, c'était le gouverneur de Mecca à son époque, à cette époque-là, à l'époque de Marwan. Hein? Là, Marwan. Hein? Al-Hakam, Marwan al-Hakam. Et lui, c'était le responsable de Mecca. Donc, lui aussi, il faisait un discours donc, à ce moment-là. Puis, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé un nansuka, que nous commencions les rites de quoi? Les rites ici du pèlerinage. Ici, on va parler du pèlerinage dans ce hadith-là. D'accord? Que nous commençons plutôt les rites du pèlerinage à la vision lunaire, encore une fois, par rapport au Dhul-Hijja, par rapport à la vision de la lune de Dhul-Hijja. Fa'il lam nara, et si on ne l'a pas vu, mais que shahida adlin, que deux témoins fiables l'ont vu, la sakna, bi shahadatihim, ont commencé, en s'appuyant sur le témoignage de ces deux personnes-là, les rites du Hajj. D'accord? On comprend par là que, donc, Dhul-Hijjah, ainsi que tous les autres mois, sauf Ramadan, ont besoin de témoignages de deux personnes. Alors que Ramadan, un témoignage d'une personne seule suffit. Comme on l'a vu avec Ibn Omar. Classe? Alhamdulillah. ويجب يقول الشيخ سعدي ويجب تبييت النية لصيام الفرض هذا مهم يجب هذا واجب تبييت النية لصيام الفرض هي الواجب أي يجب أن تكون النية في جزء من الليل ولو قبل طلوع الفجر بلحظة 5 دقائق مثلا 3 دقائق لما رواه سالم ابن عبد الله عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وذكر ابن حجر في التلخيص أن البخاري وأبا حاتم وأبا داود والترمذي والنسائي رجحوا أنه موقوف ولا يصح رفعه. المهم donc il dit l'auteur rahimahullah, là on va parler d'une chose qui est très importante. Il dit il est obligatoire, il est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner la nuit qui précède le jour du jeûne, le jour que tu veux jeûner. Et cela concerne le jeûne obligatoire. On parle du jeûne obligatoire. D'accord? Si tu veux que ton jeûne soit valide, tu es obligé d'émettre l'intention, niya, l'intention de jeûner la veille. c'est-à-dire la nuit qui précède le jour que tu veux jeûner. D'accord? Il dit donc cela est obligatoire. Même si le moment où tu as eu l'intention se trouve 5 minutes avant le lever du soleil. D'accord? L'essentiel, c'est que tu aies mis l'intention avant le lever du soleil. 5 minutes, 10 minutes, même 2 minutes. D'accord? Par contre, si tu n'as pas mis l'intention avant et que le soleil s'est levé, le fajr s'est levé, plutôt, le fajr s'est levé, c'est trop tard. Ton jeûne ne sera pas valide. D'ailleurs,
Ça ce matin.
là, on parle du jeûne obligatoire. On parle du jeûne obligatoire. D'accord? Le jeûne facultatif, on verra, c'est autre chose. Là. Même si pour Ramadan, les ulama, ils ont divergé. Est-ce qu'on doit faire ça tous les jours? Ou pas? D'accord? Rajih, c'est qu'il suffit que tu le fasses au début du mois. Au début du mois, tu mets l'intention de jeûner tout le mois. D'accord? Sauf si, pendant le mois, tu tombes malade et que du coup, tu vas rompre ton jeûne à cause de la maladie. Dans ce cas-là, quand tu vas reprendre le jeûne, là, tu devras remettre encore l'intention. Taïeb? Non. Comme l'a rapporté ici, Salim ibn Abdillah, selon son père, donc Abdullah, selon Hafsa, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est qui Hafsa ici? Là. Hein? Sa sœur, la sœur du prophète.
Non, ça va.
Son épouse. Sa fille, sa sœur. Son épouse, Hafsa. Hafsa. Ummul mu'minin. Mais c'est la fille de qui? La. Tu confonds avec Aïcha, toi. La fille de Omar. C'est ça que tu voulais dire en fait. La fille de Omar. Non. Taïeb. Hafsa bint Omar. Qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas eu l'intention ferme de jeûner avant el-Fajr, son jeûne n'est pas valide. Fala siyam. C'est-à-dire son jeûne n'est pas valide. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Même si Ibn Hajar, il a dit que Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, sont d'avis que ce hadith-là, il est mawquf. D'accord? C'est une parole de Hafsa. C'est pas une parole du prophète. C'est Hafsa qui dit ça. Mais dans tous les cas, on sait que les Sahaba ne font pas de législation, ne font pas de légifération en dehors du prophète. D'accord? Donc forcément, c'est une règle qu'ils ont prise du prophète. Et en plus de cela, il y a d'autres hadiths, d'autres versions de ce hadith-là, dans le même sens. Qui va dans le même sens, qui sont eux, marfoua. Donc, je ne sais pas pourquoi le shir ici rapporte un hadith, une version qui est marfoua. Il aurait pu rapporter des hadiths qui sont marfoua directement, qui comportent exactement le même sens, qui est l'obligation de mettre l'intention la nuit ou la veille, d'accord, du jour de jeûne. Thumma yaqul, wa amma an-naflu. من النهار لكن بالتفصيل يعني يصح له ابتداء النية في صيام النفل من بعد طلوع الفجر لكن بشرط أن لا يتناول شيئا من المفطرات هذا شرط لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ أي هل عندكم ما يؤكل؟ فقلنا لا. سبحان الله قلنا لا. قال فإني إذا صائم. إني إذا صائم. طيب إذا لم يبيت النية النبي صلى الله عليه وسلم. النوى يعني في النهار. أخرجه مسلم. Par contre, concernant les jeûnes facultatifs, il dit il est permis de mettre l'intention après ton réveil, c'est-à-dire après el-Fajr. Après el-Fajr. Cela est permis et valide. D'accord? Concernant seulement les jeûnes facultatifs. Mais à condition que, bien sûr, entre-temps, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas bu. Tu n'as pas eu de rapport. Si tu te lèves, hein, le fajr, il est passé. Tu as pris le petit déjeuner. Tu as pris un bon petit plat, mashallah. Et après, tu te dis à midi, bon, je vais jeûner aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Par contre, si à midi, tu te rends compte que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as rien fait qui pourrait annuler un jeûne, tu peux mettre l'intention à partir de midi. Charles Thaymin, il dit même, hein, tant que le Maghreb il n'est pas arrivé, tu peux mettre l'intention. Condition que tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé. D'accord? Il y a 5 minutes avant le Maghreb, tu mets l'intention. D'accord? Mais par contre, il dit, tu auras la récompense que des 5 minutes. Pourquoi? Même si tu n'as pas mangé. Pourtant, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu depuis le matin. Mais, comme tu n'as pas mis l'intention, tu n'as pas de récompense. Parce que les actes ne valent que par les intentions. Hein? C'est dommage, tu as perdu toutes ces hasanat pour rien. D'accord? Mais encore une fois, à partir du moment où tu mets l'intention de jeûner, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as pas eu de rapport, rien, eh bien tu auras la récompense jusqu'au Maghrib, Inch'Allah Ta'ala. Par contre, une chose importante que beaucoup ne savent pas, ça concerne Siyam Nafil Al-Mutlaq. Ça concerne les jeûnes facultatifs, mais Mutlaq, c'est-à-dire général, qui ne sont pas Mu'ayyan, qui ne sont pas spécifiques, particuliers. Par exemple, demain, on est que le jour mardi. Demain, il n'y a rien de particulier au niveau du jeûne. Tu dis, je vais jeûner mardi. Tu as le droit ou pas? Tu as le droit. D'accord? Ou tu ne mets pas l'intention la veille. Tu attends, demain, tu te lèves, 10 heures, tu regardes, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, allez, je vais jeûner aujourd'hui. Donc là, c'est un jeûne qui n'est pas particulier, qui est vraiment général, mutlaq. D'accord? Mais le jeûne, el mu'ayyan, mais qui est facultatif, mais il est mu'ayyan. Comme non, lundi, jeudi, les 3 jours hein, de pleine lune. Somme Ashura. Siyam Yom Arafa. Ça y est, ça c'est des jeûnes qui sont facultatifs, certes, ne sont pas obligatoires, certes, mais ils sont moyens, ils sont particuliers ceux-là. Les 6 jours de Shawwal.
Le rattrapage de Ramadan.
Ah oui, ah oui, mais là c'est obligatoire. Là, on parle déjà de facultatif. C'est encore pire, le rattrapage de l'obligation, c'est encore pire. Mais facultatif, Ashura, c'est facultatif. Les 6 jours de Shawwal, c'est facultatif. Mais est-ce que tu as le droit de te lever pendant Shawwal, tu te lèves, tu ne manges pas jusqu'à midi et tu mets l'intention des 6 jours de Shawwal à midi? Non, tu n'as pas le droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui joue 6 jours de Shawwal. Il n'a pas dit celui qui joue 5 jours et 10 heures. Non, 6 jours. Pareil pour Ashura. Si tu veux la récompense de Ashura, tu jeûnes tout Ashura avec l'intention de Ashura. Si tu mets l'intention de Ashura à midi, ça ne marche pas. Vous voyez? Faire attention à ce détail, cette nuance qui est très importante. Quand on dit que tu peux mettre l'intention au milieu de la journée, ça concerne seulement les jeunes qui sont mutlaq. Ils ne sont pas mu'ayyan. Le mu'ayyan, là, tu n'as pas le droit. C'est bon, Yohan? Alhamdulillah. والمريض الآن المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر المريض والمسافر اللذان يتضرران بالصوم فلهما الفطر والصيام لهما الفطر ولهما الصيام يقول الشيخ يعني أنهما مخيران مخيران بين الأمرين فالفطر رخصة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولحديث أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أخرجه البخاري ومسلم لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي وإذا كان هناك مشقة على المسافر فالفطر له أفضل. إذا كانت مشقة على المسافر فالفطر له أفضل. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه. وإذا لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل، لأنه أداة للعبادة في وقتها، والأداء أفضل من القضاء. Il dit, maintenant on va passer à la mention des catégories de gens qui peuvent ne pas jeûner. Là, on parle de Ramadan. D'accord? On parle du jeûne obligatoire. Donc, il dit, l'auteur, on a le malade. Le malade qui est éprouvé par le jeûne. Et on a le voyageur aussi. Le malade et le voyageur qui sont éprouvés par le jeûne. Ils ont le droit de ne pas jeûner, comme ils ont le droit de jeûner. Donc là, on parle de manière générale. Ils ont le droit de jeûner, comme ils ont le droit de ne pas jeûner. D'accord? Il dit le cheikh. Donc ces deux-là, le malade, le voyageur, ils ont le choix entre ces deux choses, jeûner ou pas. Et ne pas jeûner, donc, c'est une permission de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah dit, dans le sens rapproché, celui parmi vous qui est malade ou en voyage, eh bien, qu'il rattrape un nombre équivalent de jours. On comprend ici la permission. On a le hadith d'Anas ibn Malik, qui a dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûnait ne faisait aucun reproche à celui qui ne jeûnait pas. Et celui qui ne jeûnait pas ne faisait aucun reproche à celui qui jeûnait. Ça y est, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Hamzata ibn Amr al-Aslami. En revanche, s'il y a une difficulté, une mashaqqa, une gêne, une difficulté concernant le voyageur, dans ce cas-là, pour lui, il sera préférable de ne pas jeûner. D'accord? De ne pas jeûner. En vertu du hadith de Jabir, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie ni de la piété, d'accord, ou de la bienfaisance, ou des bonnes œuvres, le fait de jeûner en voyage. Le fait de jeûner en voyage. Donc on comprend ici que cela est détestable. C'est détestable, d'accord, pour le voyageur qui ressent une mashaqqa, une difficulté, une peine. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais s'il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a pas de pénibilité pour le voyageur, dans ce cas-là, il lui sera préférable de jeûner. On ne dit pas obligatoire, mais c'est mieux. C'est mieux pour lui de jeûner, même s'il a un voyage. D'accord? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons-là, car le fait de faire l'obligation en son temps et en son heure est préférable que de la rattraper. D'accord? Même si tu peux la rattraper plus tard, tu as le droit, mais c'est mieux que tu la fasses en son temps et en son heure. Ça y est? C'est bon, les frères? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà détaillé cette mas'ala par rapport au malade, le voyageur, même la femme enceinte et celle qui allait. Vous vous rappelez? Parce qu'il se peut que même dans certains cas, le malade n'a pas le droit de jeûner. S'il jeûne, il commet un péché. D'accord? Donc le malade, il n'a pas tout le temps le choix en vérité. Des fois, il n'a pas le choix. Des fois, il est même obligé de jeûner. D'accord? Et des fois, il est même obligé de rompre. Ça dépend. Dans quel cas il est obligé de rompre, par exemple, le malade?
Dans le cas où son jeûne entraîne une nuit à sa santé, au point où ça peut le mettre en danger pour mourir.
Non. Bismillah. Non, merci. إذن إذا كان المرض يضر بالصائم يدر بالصائم أو يؤخر برأه أو يزيد في المرض فوجب الفطر. وجب الفطر لقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فبعض المفسرين ذهب إلى وجوب الفطر. وجوب الفطر. نعم. Donc première situation pour le malade, celui dont la maladie nuit à sa santé. S'il est jeune, d'accord? Ou dont la maladie va retarder sa guérison. Ou dont la maladie va aggraver sa maladie. Qu'on a trois ici, trois critères à prendre en compte. Soit ça va lui nuire, c'est une nuisance pour lui le jeûne, parce qu'il est malade. Soit ça va retarder sa guérison, soit ça va aggraver sa maladie. Lui, il lui est interdit de jeûner. S'il jeûne, il aura commis un péché. D'ailleurs, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de nous faire du mal et de faire des choses qui nuisent à nos propres personnes et à notre santé. Et certains ont pris pour preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit: et celui parmi vous qui est malade ou en voyage, eh bien qu'il rattrape un nombre de jours équivalent. Certains exégètes, ils ont dit c'est une preuve comme quoi celui qui est malade et qui dont la maladie a atteint ce degré-là n'a pas le droit de jeûner. Et il rattrape quand il sera guéri. D'ailleurs, à quel moment il lui sera obligatoire de jeûner? Non, on parle du malade. C'est les guéris, les plus malades.
Ah, si c'est passager.
Hein?
Si c'est une maladie passagère.
Maladie passagère. Non, pas forcément. Hein? Quand c'est?
Ça le nuit.
Voilà. On revient aux trois critères. Ça ne le nuit pas. D'accord? C'est pas une nuisance pour lui. Ça n'aggrave pas, ça ne retarde pas sa guérison. Lui, il est obligé de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune excuse en vérité. Les adam al-udhr. المبيح للفطر مثال ذلك السوداء الخفيف مثلا المصاب بالسوداء الخفيف ونحوه لا يضر به الصوم. Donc celui qui a une maladie qui n'est pas nuisible pour lui s'il jeûne, qui n'aggrave pas sa maladie et qui ne retarde pas sa guérison. Lui, il est obligé de jeûner. Parce qu'en vérité, il n'a pas d'excuse permettant la rupture du jeûne. Comme celui qui a un mal de tête, un petit mal de tête léger. C'est une forme de maladie. C'est une petite maladie. D'accord? On peut dire que la personne, elle est malade. Elle a mal à la tête. Mais ce mal de tête, il est léger. Et ça fait que s'il jeûne, ça ne va pas le nuire, ça ne va pas retarder, ça ne va pas aggraver, rien du tout. Lui, il doit jeûner. D'accord? والحالة الثالثة أن يشق عليه ولكنه لا يضر. شق عليه ولا يضر. فهناك يكون له الصيام أفضل أفضل وذلك لأمور: الأول لأنه أسرع في إبراء الذمة، الثاني لأنه أيسر عليه، والثالث لأنه يؤديه في زمنه الفاضل كما قال الشيخ، والأداء أفضل من القضاء. troisième situation: si le malade, quand il est jeune, il ressent une certaine difficulté. Mais ce n'est pas une nuisance pour lui. Ça ne le nuit pas. Mais c'est un peu difficile parce qu'il est malade. Lui, il peut ne pas jeûner. Mais c'est mieux pour lui qu'il jeûne. C'est préférable. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cela lui permettra de s'acquitter de son obligation le plus tôt possible. Comme ça, c'est fait. Il a fait son obligation. D'accord? Il n'a pas retardé. Deuxièmement, parce que cela lui sera plus facile de jeûner avec les musulmans que de jeûner plus tard tout seul en le rattrapant. D'accord? Et troisièmement, parce qu'il l'aura fait dans une période qui est préférable, qui est le mois de Ramadan. D'accord? Et encore une fois, le fait de faire l'acte d'adoration en son heure et durant sa période légiférée, c'est mieux que de la rattraper dans tous les cas. Ou dans ce cas-là, plutôt, pardon. Dans ce cas-là bien précis. D'accord? Donc on a vu les trois cas ici. Concernant le voyageur. Le malade. Ça? Le voyageur maintenant. On a parlé du malade. Non, ça c'est quand j'ai lu. C'est quand j'ai lu ce qu'il a dit sur le conseil. D'accord? Qui a parlé du voyageur. Après là, j'ai commencé à parler que du malade. Là, on va résumer en fait, on va essayer de résumer. Il y a toutes les situations qui peuvent toucher le malade, le voyageur. Et bien, on va voir après aussi la femme enceinte et celle qui allaite.
Pour le récupérer après. Parce qu'il y en a qui vont croire qu'on ne le fait plus. On ne le récupère pas. Pour le récupérer. Pour le faire après.
Ah, voilà, t'as compris les frères? Pour rattraper après. Hein? Non. Jazakallah al-musafir. Al-musafir. Est-ce que Al-Musafir, déjà, est-ce qu'il y a des situations pour le voyageur qui font qu'il est obligé de jeûner? Premièrement. Est-ce que ça existe, ça? Un voyageur qui est dans une situation dans laquelle il est obligé de jeûner. S'il ne jeûne pas, il a commis un péché. On a vu pour le malade que oui, ça existe. Le malade, ça existe. D'accord? Mais le voyageur. Hein? Là. Al-Musafir, comme a dit le Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit: La yalzamuhu as-sawm fi kulli ahwali. Fi kulli ahwali. Il dit, Cheikh Sa'di, le jeûne pour le voyageur n'est jamais obligatoire dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Que ce soit un voyage qui n'est pas pénible ou qui est léger, ou qu'il voyage en première classe, avec la clim et tout, il ne ressent aucune difficulté. Tant qu'il est en voyage, tant qu'il est dans le jugement du voyageur, il n'est pas obligé de jeûner. Vous voyez? Même le jour où il sait qu'il va arriver à destination, il va rentrer chez lui. Hein, il rentre chez lui. Donc il n'a pas jeûné après le fajr. Mais il sait que dans la journée, il va arriver à destination chez lui. D'accord? Même s'il sait qu'il va arriver pendant la journée, il peut ne pas jeûner. Il n'y a aucun problème. Et lorsqu'il arrive à destination, est-ce qu'il peut manger ou est-ce qu'il doit s'abstenir de manger jusqu'au maghrib quand même? Hein? Il peut manger. Il peut manger parce que dans tous les cas, ce jour-là, il doit le rattraper. Mais il ne le fait pas devant les autres, devant ceux qui jeûnent. Parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il est en voyage ou qu'il rentre de voyage. D'accord? Donc il fait ça chez lui, hein? Tranquille. Un, deux. Et 20. Donc à quel moment?
Il a commis un péché s'il le fait devant tout le monde. Et il va aussi bien qu'il prenne le
Ah, c'est mal vu, c'est mal vu. Il va entacher son image. Quel snack? Ils sont fermés les snacks
C'est juste pour son honneur.
Bien sûr, c'est un honneur. Pour pas que les gens l'accusent de choses qui. Hein? De toute façon, il ne trouvera pas à manger. C'est qu'il va à manger. À part le quick de Saint-Louis. Ouais. Donc, à quel moment le jeûne pour le voyageur il est haram? À quel moment il est haram? Parce que des fois il peut être haram. Dans certaines situations, le voyageur n'a pas le droit de jeûner. Pendant le pèlerinage. Non, pendant le pèlerinage. Pendant la montagne, il n'y a pas de pèlerinage. Hein? Pendant le Mu'tamir. لا بأس المؤتمر يصوم في رمضان لا بأس لا
De quoi jeûner pendant le jour pendant qu'on est on fait la ramla, c'est ça, c'est
Je peux faire mon marat pendant Ramadan. C'est possible. Et tu es un voyageur. Pour ceux qui sont voyageurs pendant la ramla. Voyez? Eux, ils rentrent dans le hukm du voyageur dont on est en train de parler actuellement. Donc, à quel moment c'est interdit pour lui?
Quand il y a une nuisance.
Un yakou, on a les... Un yachouqa à l'moussafir. Un yachouqa siyamu à l'moussafir. Ma shakkatan shadida. Ghayr mutahammala. Ghayr mutahammala. Ma shakkatan shadida. Taïeb. وهذا لحديث جابر. نعم جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان في عام الفتح صام وصام الناس ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان أمام الناس ثم قيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فماذا قال؟ قال أولئك العصاة أولئك العصاة Donc une situation par rapport aux voyageurs. Celui dont le jeûne représente une pénibilité très forte, insupportable, insupportable, d'accord? À cause du voyage. Le voyage, il y a une difficile, dans la chaleur, par exemple, etc., etc. Si la difficulté est pénible et insupportable, il n'a pas le droit de jeûner. Yajib alayhi al-fitr. Il doit rompre le jeûne. Et la preuve, c'est le hadith de Jabir, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était l'année de l'Fetr. C'était quand l'année de l'Fetr? La prise de Mecca. En quelle année? La prise de Mecca.
La
9e année? Tu aimes trop la 9e année. Il est trop la 9e année. Ça ne marche pas à tous les coups, frère. Ça, c'est le hajj, ça. Hein? Non. Un an avant. La huitième. D'accord? La huitième année. Et donc, ils étaient en voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan. Et le prophète, il jeûnait au début. Il jeûnait, tout le monde jeûnait. Et à un moment, mais le voyage était très très difficile, très pénible. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui amène un récipient d'eau avec de l'eau. Il a pris le récipient, il a levé comme ça, en l'air, que tout le monde puisse voir ce qu'il allait faire, et il a bu. Il a bu devant tout le monde. Donc certains ont compris, ils ont rompu le jeûne. Jusqu'à ce qu'on ait rapporté au prophète, qu'il restait un groupe de sahaba qui n'avait pas rompu le jeûne malgré tout. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux-là sont des désobéissants. Ceux-là sont des désobéissants. Donc on voit ici que lorsque la difficulté est vraiment très grande et très intense, tu es obligé de rompre ton jeûne. D'ailleurs, et bien sûr de le rattraper plus tard. Hein, cher? D'ailleurs, à quel moment ça peut être détestable? Voilà, c'est ça. Non. Il y a une difficulté, une difficulté, une difficulté, une difficulté, une difficulté, une difficulté, une Donc, lorsque le voyageur ressent une difficulté, mais supportable, tolérable. C'est pas énorme. D'accord? Contrairement à la première. Vous vous rappelez? Il peut supporter, il n'y a pas de problème. Il peut patienter. Lui, c'est détestable pour lui. S'il jeûne, il n'a pas de péché, mais c'est makro. C'est mieux pour lui de ne pas jeûner. Il l'a dit ici, le cher. Hein? C'est mieux pour lui de ne pas jeûner. L'anna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل فقالوا صائم هذا رجل صائم ها؟ فقال الحديث ليس من البر الصوم في الصوم donc celui-là son jeûne il est détestable. La preuve c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu une foule de gens qui étaient donc réunis autour d'une personne qui était mal en point, d'accord, qui n'était pas bien, à cause du jeûne. À cause du jeûne. Ils étaient en voyage. Donc il a demandé qu'est-ce qu'il avait. Ils ont dit, il est comme ça parce qu'il avait le jeûne. D'accord. Et là, il a dit, ne fais pas partie tel bir, donc des bonnes actions, que de jeûner en voyage. D'accord. Mais il ne l'a pas interdit pour autant. Donc ça veut dire que lorsque la difficulté, elle est tolérable, hein? Tu peux jeûner, mais c'est détestable. C'est bon, Yachon? Pour le halte thalitha, an la yashuqa alayh. An la yashuqa alayh. Taïeb. Fa hadha al-afdal an yasum. Hadha al-musafir al-afdal an yasum. Awalan, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في يوم شديد الحر وكانوا مسافرين فهي في السفر ف ليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا رحاوة أو رواحة نعم أبا رواحة رضي الله عنه متفق عليه. Premièrement, la preuve de cela c'est qu'il est mieux pour le jeûneur de jeûner quand il ne ressent aucune difficulté. D'accord? Vous vous rappelez les deux premières catégories de voyageurs, celui qui a une grosse difficulté qui est insupportable et celui qui a une difficulté mais qui est supportable. Là, on parle de celui qui n'a vraiment aucune difficulté. Walou. Première classe. Il est bien. Il ressent rien. Eh bien, lui, c'est mieux pour lui de jeûner. Il peut ne pas jeûner, comme on a dit. Aucun voyageur n'est obligé de jeûner. Mais c'est mieux pour lui de jeûner dans ce cas-là. Premièrement, la preuve, ou l'une des raisons de cela, c'est que Abu Darda, il a rapporté qu'un jour, ils étaient en voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce jour-là, il faisait très très chaud. Très très chaud. Et il a dit, aucun d'entre nous jeûnait. Aucun d'entre nous jeûnait. Ils avaient tous rompu. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et un compagnon appelé Abu Rawah. Abu Rawah. Donc on voit ici que le prophète il avait continué à jeûner parce que pour lui, il n'y avait aucune difficulté. Et s'il n'y avait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on aurait pu dire que peut-être le hadith, il est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, seulement. Mais non, il n'y avait pas que lui, il y avait un compagnon aussi qui s'appelait Abu Rawaha. Donc c'est la preuve que celui qui ne ressent aucune peine, comme Abu Rawaha, eh bien, il peut jeûner. Il peut jeûner, et c'est même mieux pour lui de jeûner. Encore une fois, pour les trois raisons qu'on avait citées déjà pour le malade, cela sera plus à même de s'acquitter de son obligation le plus tôt possible. Deuxièmement, c'est plus facile parce que tu jeûnes avec les musulmans. Troisièmement, tu l'auras fait pendant la période la meilleure, qui est le mois de Ramadan. Et encore une fois, le fait de faire l'obligation en son temps, c'est meilleur que de la rattraper. D'accord? C'est clair, les frères?
Par exemple, le voyageur, il a commencé à jeûner.
Il est en voyage. Il a le droit de rompre son jeûne.
D'accord.
Il est en voyage. Il le rattrapera plus tard. Alhamdulillah. Mais c'est mieux pour lui, s'il ne ressent aucune gêne, rien, c'est mieux pour lui de continuer à jeûner. Hein? C'est bon, Lucas?
Un voyageur, c'est celui qui n'est pas chez lui. Non, non, il est 18 ans.
18 ans
Je dire, c'est celui qui n'est pas chez lui. Ça veut dire que si, pendant le mois de Ramadan, je vais en Algérie, je suis moussafir le temps que je reste en Algérie, ou même si j'ai chez mon cher là-bas.
Ah, pour ceux qui ont une maison là-bas, en Algérie. Bonne question. Question. Voilà. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que si tu restes moins de 4 jours et 4 nuits, si tu vas, tu restes moins de 4 jours et 4 nuits, tu restes voyageur. Ça, c'est sûr.
Au-delà, tu peux voyager?
Non, au-delà, tu peux voyager, dans tous les cas. Dans tous les cas, n'importe quel voyage. Bien sûr. Trouve-moi un sujet dans le fer qui n'a pas de divergence. Subhanallah.
C'est à partir de combien de... J'ai jamais eu quoi que ce soit sur ça. J'ai envie d'avoir 80 km.
Là. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils disent, non, mais ils disent 80 km. Mais c'est un ijtihad, ça. Parce qu'il n'y a aucun hadith, aucun texte qui mentionne des kilomètres. Ouais. Et ils se basent juste sur des noms d'endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé. Et ils ont fait une estimation des kilomètres, comme l'a fait Cheikh Ibn Baz.
On m'a dit aussi, dès qu'on aperçoit sa maison, là tu sors de là, tu vois plus des bâtiments.
Pour ton voyage? Non, les habitations de ta ville.
Ah ouais?
Pas ta maison à toi, les habitations de ta ville. Donc tu habites à Marseille, tu prends l'autoroute, si tu vois plus les habitations de Marseille, ça y est, tu es en voyage.
Aix?
Hein?
Je vais à Aix, je suis en voyage. Ah,
tu vois que c'est... Non, rien à voir. Non. Attends, tu confonds tout, là, tu mélanges tout. Là, je ne te parle pas du nombre, de la distance. Je te parle à quel moment tu deviens voyageur quand tu pars en voyage.
Dès qu'on...
À quel moment? Est-ce que c'est quand tu sors de chez toi? Est-ce que c'est quand tu as mis l'intention? Non, c'est quand tu sors des limites de ta ville.
Ok.
D'accord. Maintenant, quand tu vas à Aix, quand tu pars en voyage, là, il dit que...
C'est ma ville.
Non, encore une fois, là on parle du moment. À quel moment tu deviens voyageur? À quel moment? Quand tu pars au bled, par exemple. Quand tu pars au bled. À quel moment tu es voyageur quand tu vas au bled? Quand tu es au port de Marseille? Quand tu es à Marignane? Là. Même avant Marignane. Tu as pris l'autoroute. Arrivé, vers septembre, les peines, tu ne vois plus Marseille. D'accord? Non, c'est un voyage. Mais avant, tu n'es pas en voyage. Comment?
Il faut l'intention du voyage.
Concernant la distance, c'est la vie le plus correcte, c'est que tu reviens à l'urf, ce qui est connu comme étant un voyage. Ce qui est connu comme étant un voyage dans l'esprit des gens. Hein? Ce qui est connu. Tu vas à Aix-en-Provence, que tu vas à Vitrolles. Celui qui dit que c'est un voyage, c'est faux quand même. Hein? Il aura contredit la vie de tout le monde. Par contre, Lyon, non. Lyon, dans l'esprit des gens, c'est quand même un petit voyage. Marseille. D'ailleurs, Marseille, je sais pas moi. Avignon, non, Avignon, c'est à côté. Tu vois, ça reste.
Marseille, Toulouse.
Hein? Toulouse, aussi loin, Toulouse, à combien de temps? Voilà, Toulouse, c'est quand même un petit voyage. Tu vois? Ah, le moyen, tu reviens. Hein? Tu reviens à ce qui est connu chez les gens. Demande aux gens, pour toi, Marseille-Toulon, c'est un voyage? Je me dis, non, Marseille-Toulon, c'est à côté. C'est à côté, c'est un voyage. Tu vois?
Donc, du coup, si. En fait, moi, je juge ça concernant les prières, sur les groupes ou pas. Si je vais à Toulon, je dois passer la journée, je reviens normalement.
Eh oui, bien sûr. T'es pas voyageur. Non.
C'est bon, les frères.
7 minutes. طيب ثم يقول الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. طيب donc je pense qu'on va détailler ça la prochaine fois, inshallah. Mais juste, il dit l'auteur ici, rahimahullah, la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses logis, logis c'est la femme qui a des pertes après l'accouchement, d'accord? Il leur est interdit de jeûner. C'est clair. La femme qui a ses menstrues, elle ne jeûne pas pendant Ramadan, ou hors Ramadan d'ailleurs, et non plus celle qui a ses logis. Mais bien sûr, elles devront rattraper. D'accord? Elles devront rattraper. C'est pas comme les prières. La femme qui a ses menstrues ne rattrape pas ses prières. Alhamdoulilah. D'accord? Ça, c'est un allègement de la part d'Allah. D'ailleurs?
Après l'Aïd, tu sens, tu fais.
Al-Ha'id. Al-Ha'id. On nous fait ça. La tasouma. La tasoum. La hintardiyan. Tardi. بعد الحيض وبعد نعم قلنا نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم
معين
معين ميم عين ياء نون معين
Donc là, j'avais une question par rapport à celui qui est malade, mais que c'est tolérable. J'avais vu que c'était bien de, je sais pas si c'était pour lui spécifiquement, mais c'était bien de rentrer quand il était malade, ouais, quand il voyageait, parce qu'on utilisait une.
Ça va, moi, malade, voyage, tout. Vas-y, vas-y, vas-y.
Pardon, voyageur, parce qu'on est voyageur, c'était bien de rentrer parce qu'on utilisait une facilité d'avoir. Alors, même si on a, entre guillemets, la capacité, que l'école.
On a vu le prophète, en fait, il jeûnait. Il est en voyage, il jeûnait. En fait, c'est le meilleur des modèles.
C'est pas qu'il jeûnait, il rentre. Il rentre. Parce que c'est
Oui,
une
mais.
facilité.
Oui, mais l'avis qui est correct, encore une fois, c'est que si tu n'as aucune gêne, c'est mieux de jeûner. La preuve, c'est que le prophète, il jeûnait, il est en voyage. Et le prophète, c'est le premier à profiter des autorisations d'Allah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, encore une fois, ici, l'autorisation était préférable de ne pas jeûner, en fait, il n'aurait pas jeûné. D'accord? Donc, vous aurez montré l'exemple. Donc, s'il a fait ça, c'est que c'était mieux pour lui de jeûner parce qu'il ressentait rien du tout comme gêne. D'accord? Donc, on voit. Ça, c'est quand on réunit les hadiths. Vous voyez, quand on réunit les hadiths, si on prend que le hadith, le prophète, il a blâmé ceux qui jeûnaient pendant le voyage. Ou lorsque la personne qui jeûnait était mal en point et qu'il a dit, c'est pas partie des bonnes actions que de jeûner en voyage. Sauf que ces deux hadiths-là, non. On peut dire, le jeûne en voyage, c'est pas bon. Vous voyez? Mais il y a ce hadith-là, d'Abu Darda, qui dit, on était en voyage, il faisait très très chaud, donc on comprend que pour eux c'était compliqué, mais pas pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui est jeûné. Lui est jeûné ainsi que Abu Rawaha. Radiallahu anhu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nattafi bi hadha. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.